Europe Matin, le 5-7. Sébastien Krebs.
Allez, tout de suite, votre journal. Bonjour Sophie Hachène.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Bon réveil, il est 6h sur Europe 1.
Très compliqué aujourd'hui de savoir si son nom est dans cette base de données. Ça semble venir d'un logiciel qui permettait à des hôpitaux, à des laboratoires, de pouvoir rentrer toutes les informations que pouvait fournir un patient.
Nom, prénom, numéro de téléphone, mais aussi cancer ou séropositivité. Les données médicales d'un 500 000 de Français circulent en ce moment sur Internet. Une fuite d'une ampleur inédite. La consternation dans l'Essonne après le meurtre de deux adolescents en deux jours dans des rixes entre bandes rivales. Les médecins généralistes dans les starting blocks, ils pourront vous vacciner contre le Covid à partir de demain. Et puis nous irons dans une carrière de calcaire de l'Oise à la fin de ce journal. C'est de là que viendront les pierres qui serviront à la restauration de Notre-Dame de Paris.
À suivre la page des sports et puis mon invité inattendu à l'occasion des victoires de la musique classique. Il est un chanteur lyrique très particulier. Il a changé de vie après une carrière de rugbyman professionnel. Pilier du Stade Toulousain, il est devenu baryton. Il va nous raconter ce changement de vie dans un quart d'heure. Bienvenue à toutes et à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
C'est une nouvelle affaire de piratage informatique que révèle ce matin le journal Libération. Des données médicales sensibles de près de 500 000 personnes en France circulent sur Internet en ce moment même. D'abord caché, entre guillemets, sur le dark web, ce fichier a fuité à la suite de ce qui semble être une dispute entre hackers. Damien Bancal est journaliste spécialiste de la cybersécurité. C'est lui qui a identifié cette fuite en premier, il y a 10 jours.
Ce document comprend leurs identités, nom, prénom, des numéros de téléphone, hein, le numéro de la maison, le numéro du téléphone portable, mais aussi leur médecin traitant, leur mutuelle, leur numéro de sécurité sociale, bref, plus de 60 informations. Ça semble venir d'un logiciel qui permettait à des hôpitaux, à des laboratoires, eh bien, de pouvoir rentrer toutes les informations que pouvait fournir un patient. Très compliqué aujourd'hui de savoir si son nom est dans cette base de données. Il n'y a que les autorités qui maintenant ont l'information, qui je pense vont alerter chaque médecin, chaque patient présent dans cette base de données, et bien au moins pour leur dire « Attention, vos informations aujourd'hui sont dans des mains pirates, méfiance aux courriers électroniques que vous allez recevoir ou aux appels téléphoniques d'inconnus qui souhaiteraient vous extraire par exemple des informations qui pourraient vous être demandées. »
Des propos recueillis par Jean-Jacques Herry.
L'autre grand titre ce matin, c'est ce double drame dans l'Essonne. Moins de 24 heures après la mort d'une collégienne poignardée à Saint-Chéron dans une violente rixe, un autre adolescent est mort hier à Boussy-Saint-Antoine, cette fois dans le même département.
Dans les mêmes circonstances à la suite d'un affrontement entre deux bandes des communes voisines, a priori aucun lien entre ces deux affaires. À Boussy, une soixantaine de personnes parfois armées sont venues en découdre. Romain Collat, le maire de la commune, est encore sous le choc.
Les affrontements, pour ce que j'en sais, concernent des jeunes issus de deux quartiers, de villes limitrophes de ma commune. Moi, j'ai grandi dans la ville dont j'ai le plaisir d'être maire. J'ai 41 ans et ça fait 41 ans qu'existe cette culture d'affrontement entre des jeunes issus de ces deux communes. On ne peut pas se satisfaire de ça. On ne peut pas. J'ai un sentiment de profonde colère. On a une violence qui se généralise dans notre société, qui doit appeler à la responsabilité de chacun. Les communes, les forces de l'ordre, l'État, mais aussi les individus. Qu'est-ce que fait un gamin de 13 ou 14 ans avec un couteau à se balader dans la rue en plein après-midi, très franchement? On ne doit pas voir sa vie menacée quand on a 13 ou 14 ans, c'est inadmissible.
Le maire de Boussy-Saint-Antoine dans l'Essonne, joint par Laura Taouchanoff, en déplacement dans le département hier soir, Gérald Darmanin a annoncé l'envoi de 60 gendarmes à Saint-Chéron, 30 policiers à Boussy. Gérard Depardieu, le monstre sacré du cinéma français, est mis en examen pour viol et agression sexuelle. Il est accusé par une jeune comédienne qui a porté plainte il y a 2 ans et demi, Marion Dubreuil.
Oui, la jeune femme avait déposé plainte en août 2018, quelques jours seulement après les deux scènes de viol qu'elle dénonce. Les faits se seraient déroulés au domicile parisien de Gérard Depardieu, un hôtel particulier du 6e arrondissement, en marge d'une répétition informelle pour une pièce de théâtre. À l'époque, l'acteur avait reconnu qu'il connaissait la jeune femme, mais il avait nié les faits de viol et les agressions sexuelles. Sa position n'a pas varié aujourd'hui. Après 9 mois d'investigation, l'enquête avait été classée sans suite en juin 2018. Le parquet de Paris avait expliqué qu'il ne pouvait pas caractériser les infractions dénoncées. La comédienne avait alors déposé une plainte avec constitution de partie civile pour obtenir l'ouverture d'une information judiciaire et la désignation d'un juge d'instruction en août dernier. La magistrate a estimé, elle, qu'il y avait bien des indices graves et concordants à l'encontre de Gérard Depardieu pour justifier sa mise en examen pour viol et agression sexuelle.
Marion Dubreuil du service police-justice. 6 d'Europe 1.
Il est 6h05, on en vient à l'actualité de la crise sanitaire. Emmanuel Macron présidera un nouveau conseil de défense à l'Élysée ce matin.
Il sera notamment question du sort de Dunkerque où l'épidémie de coronavirus est particulièrement virulente avec un taux d'incidence de plus de 900 sur 100 000 habitants. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, s'y rendra cet après-midi.
Et pendant ce temps, les médecins généralistes se préparent à vacciner.
À partir de demain, ils pourront piquer avec le sérum d'AstraZeneca les personnes de 50 à 64 ans souffrant de comorbidité. 2 millions de Français sont concernés par cette phase de vaccination en ville. Une nouvelle étape donc, mais qui sera très progressive, Anne Le Gall.
Oui, ça va démarrer doucement car ces médecins vaccinateurs qui sont au nombre de 29 000 volontaires à ce stade ne pourront retirer dans un premier temps qu'un seul flacon du sérum AstraZeneca chacun. Cela correspond à 10 doses qu'ils administreront aux patients qu'ils identifient comme étant les plus à risque de formes graves. Cela fait en moyenne 40 à 50 patients par généraliste, estime le docteur Jacques Battistoni, président de MG France. Il a lui-même identifié les patients concernés à partir de ces fichiers et planifié les vaccinations sur une demi-journée en fin de semaine.
Il faut absolument regrouper des rendez-vous parce qu'en fait, le vaccin ne se garde pas très longtemps à température ambiante, 6 heures si on ne le remet pas au frigo, et ça nécessite donc d'organiser sur une demi-journée les vaccinations à la suite les unes des autres.
Et cette injection est plutôt bien accueillie, rien à voir avec la défiance qui existait avant Noël, estime ce médecin, qui explique d'ailleurs à ses patients que les effets secondaires, fièvre, parfois courbature, concernent davantage les jeunes que les 50-60 ans. Le ministère de la Santé a de son côté rappelé hier que ces effets indésirables sont réels, mais minoritaires et bénins.
Anne Le Gall, spécialiste santé d'Europe 1. À l'étranger, en Équateur, 75 détenus sont morts hier lors de mutineries dans trois prisons surpeuplées du pays. Résultat de rivalité entre gangs, notamment de narcotrafiquants.
Europe 1.
14 supporters de l'Olympique de Marseille devant la justice aujourd'hui, trois semaines après les violences au centre d'entraînement du club.
Et puis nous partirons à la recherche des pierres qui serviront à reconstruire la cathédrale Notre-Dame de Paris.
La suite de votre journal de 6 heures dans quelques secondes, à tout de suite.
Europe Matin, le 5-7, Sébastien Krebs.
La suite du journal, Sophie Echen.
Il y a presque un mois, fin janvier, des centaines de supporters marseillais envahissaient la commanderie, le centre d'entraînement de l'OM, dans un contexte de vive tension avec le club. La situation avait vite dégénéré. Aujourd'hui s'ouvre le procès de ces violences et ils seront 14 à comparaître devant la justice. Stéphane Frangier.
C'est le procès de ceux qui ont couru le moins vite pour échapper à la police, martèle la défense depuis le début. Julien Gauthier est l'avocat de 6 des prévenus.
Lorsque sur un rassemblement de 300 personnes, on en prend 14 et on s'aperçoit que ce sont finalement des individus qui ne sont pas particulièrement connus pour être violents, je me dis que peut-être il s'agit soit de ceux qui courent le moins vite, soit de ceux tout simplement qui ne courent pas parce qu'ils considèrent qu'ils n'ont a priori rien à se reprocher.
Tous sont âgés entre 19 et 37 ans, essentiellement des gamins selon le procureur, insérés socialement et inconnus de la justice pour la plupart, hormis deux d'entre eux pour des utilisations de fumigènes et intrusions sur une pelouse de football. Et dans quelle ambiance va se tenir ce procès ? Faut-il s'attendre à une manifestation de soutien des groupes de supporters ? Hors de question, selon Rachid Zeroual, président des South Winners.
On ne peut pas noircir le tableau, on appelle au calme, bien sûr. On n'est pas des fous furieux. Mettre la pression sur la justice, c'est inimaginable. Après, qu'on soit solidaire, ça on a l'habitude. On n'a jamais laissé tomber personne dans la ville. Voilà.
Et dans cette affaire, un second procès doit se tenir dans un mois. Trois accusés, dont deux, sont présentés comme des membres influents de groupes de supporters. Marseille, Stéphane Frangy, Europe 1.
Le chantier de Notre-Dame avance. On vous parlait au début du mois des chaînes centenaires qui vont servir à reconstruire la charpente en bois. Eh bien, il va falloir aussi des pierres.
Et oui, la pierre a aussi terriblement souffert de l'incendie. La chute de la flèche a fait des dégâts considérables, tout comme les hectolitres d'eau des pompiers. Dans l'Oise, en Picardie, plusieurs carrières ont déjà été présélectionnées, comme celle de Bonneuil-en-Valois, où s'est rendu Pierre Herbulot.
De gigantesques blocs de calcaire sortent des entrailles de la carrière. 40 km de galeries souterraines qui renferment peut-être les futurs murs de Notre-Dame. C'est en tout cas l'espoir du gérant Bruno Gauchy.
C'est plus qu'un chantier pour nous. Vous savez, j'étais dans mon poste de télévision lorsque Notre-Dame était en train de brûler. C'est vrai que pour nous, c'est un honneur de travailler et de fournir de la pierre pour cet édifice, bien sûr.
Des experts géologues ont déjà récupéré des échantillons de sa roche pour en tester la résistance, voir comment elle pourrait être utilisée. Pierre de façade, corniche ou même gargouille, la mission d'une vie pour Michael Rubalot, le tailleur de la carrière.
Peu importe, rien que déjà mettre sa main, rien que même faire des joints.
Des joints de Notre-Dame, ce serait pas mal, ça.
Voilà, exactement. Quel tailleur de pierre ne voudrait pas travailler sur... sur Notre-Dame et puis suivre les anciens en fait. Alors bon, c'est sûr qu'on ne fait pas le figure par rapport à ceux qui nous ont précédés. Hein. Nous ne sommes que des nains sur les épaules des géants.
Le travail, lui, est titanesque. Les outils de Michael ne suffiront pas. Le chantier pourrait impliquer la dizaine de gisements de roches calcaires du bassin parisien. À Bonneuil-en-Valois, Pierre Arbulot, Europe 1.
Et puis, objectif atteint pour les deux youtubeurs français McFly et Carlito. Ça y est, ils cumulent plus de 10 millions de vues sur leur vidéo spéciale Geste Barrière. C'est un défi lancé par Emmanuel Macron qui les accueillera donc à l'Elysée pour un futur tournage.
Je me souviens de ce monde où les seules barrières étaient
pour leur petite chanson qu'ils ont fait sur les gestes barrières. Ils vont pouvoir faire un concours d'anecdotes avec Emmanuel président. Macron qui joue c'est beaucoup cette communication envers les jeunes en utilisant donc ces jeunes youtubeurs. C'était le journal de Sophie Echen, 6h11.